Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto.
Zoulou, peut-être.
Je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoulou.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier vient sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché.
Alors que tout le monde le passe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire, la sortie du dimanche, où nous revenons donc sur l'actu vélo de la semaine écoulée et celle à venir. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Charles.
Bonsoir à tous, salut Max.
Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Et Baptiste.
Salut à tous.
Et bonsoir, cher commissaire. Bien, nous avons une actualité assez riche, finalement, à commenter cette semaine. Il y a eu pas mal de courses. Alors, nous allons commencer chronologiquement, peut-être, ce sera ce qui est plus simple, en précisant toutefois qu'une émission sera consacrée spécialement au circuit extra-européen. Cette semaine, il y avait le Tour du Rwanda, donc on lui consacre une émission spéciale un peu plus tard. Voilà. Bien, on va revenir donc sur l'UAE Tour, qui était donc la deuxième course au retour à étapes de cette année après le Tour Down Under. Voilà, on a un vainqueur que on va dire que l'on attendait. Hein. C'est pas vraiment une surprise de le retrouver là. Un podium donc avec Primoz Roglic vainqueur devant Alejandro Valverde et David Godu. Voilà, je voulais ton avis sur les enseignements qu'on peut tirer de cette course, Charles, et bien sûr les autres commissaires. On va commencer par toi, donc si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course et que tu as pensé notamment de la performance donc de David Godu qu'on n'attendait peut-être pas pareil faite.
Ce que j'ai pensé de cette course, c'est qu'elle était d'abord pas très très intéressante, mais bon, ça, on en a déjà parlé pas mal, donc je vais pas trop revenir dessus. Concernant les deux coureurs que tu as ciblés, Primoz Roglic, je trouve qu'il y a quelques enseignements à tirer par rapport à sa performance, c'est qu'il est toujours au niveau après une grosse année. C'était une course qui pour moi lui convenait pas mal, parce que ces espèces de montées, la super large avec un super bitume, ça convient très très bien au 4x4, donc je trouve que c'est une belle confirmation de la saison écoulée, comme je l'ai dit. Et David Godu, j'étais vachement surpris. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais sur des pentes comme ça, pas très élevées et pas très dures, entre guillemets, enfin, je ne m'attendais pas à le voir aussi haut et je trouve que c'est une super belle surprise.
Ben, pour ma part, pour David Godu, pour la première arrivée au sommet, ça pouvait être des pourcentages qui pouvaient l'avantager, même si le revêtement de la route faisait qu'on pouvait craindre peut-être un petit manque de puissance. Mais quand on voit sa facilité sur la dernière arrivée au sommet, je trouve vraiment qu'il a passé un palier. Je m'attendais, si on m'avait dit David Godu 3e du Tour UAE, je n'y aurais pas cru quoi, en début de semaine. Donc je trouve que vraiment la performance est intéressante. Et je trouve d'ailleurs également que les performances françaises sur cette course, je pense notamment à Bouchard, sont prometteuses.
Je trouve qu'il a semble-t-il progressé, il s'est étoffé Godu en fait. On a pas mal parlé de sa saison moyenne l'an dernier en termes de résultats, mais moi je m'attendais, enfin je suis pas tout seul, hein, mais j'espérais en tout cas qu'effectivement en 2019 il percerait un peu plus après une saison disons de maturation l'an dernier et qu'il obtiendrait vite des résultats. Et ça s'est vu déjà, il a fait un bon chrono au Tour La Provence, si je ne dis pas de bêtises, enfin, en tout cas un chrono correct pour son profil. Là, sur ce Tour de l'UAE, déjà sur le chrono par équipe, c'est lui qui relance dans la dernière ligne droite pour l'équipe Groupama FDJ et qui fait un peu mal à tout le monde derrière. Et ensuite, sur ces espèces effectivement de montées très larges et quand même relativement roulantes, il dégageait de la puissance. Et en fait, j'ai l'impression que, et c'est une bonne nouvelle, il a réussi à se sortir d'un profil pur grimpeur à la française, j'ai envie de dire, et que peut-être il a pas faire un 4x4 à la Roglic bien sûr ou à la Froome, mais quand même un grimpeur qui peut-être limite mieux en chrono et sait envoyer des watts aussi même quand le profil est pas hyper grimpant et qui serait peut-être moins limité dans ce registre qu'un Bardet ou d'autres coureurs de ce style-là qui sont toujours en galère quand il faut vraiment envoyer sur en style contre la montre. Donc je trouve que c'est un bel enseignement de cette semaine pour lui et plutôt encourageant pour son profil. sa carrière.
On a même vu d'ailleurs sur les étapes plates que bon, les moments où il y a eu quelques tentatives de bordure avec, avec le vent qui s'y prêtait, finalement, il n'était pas totalement à la ramasse, hein, loin de là. Il a montré finalement qu'il est là aussi. Je pense qu'il commence à prendre ses marques sur les différents terrains et effectivement à sortir un peu de son hyper spécialisation initiale.
Et Max, toi qui le connais bien, tu vois, par exemple, un Pozzo Vivo au même âge avait énormément de difficultés sur ce genre de d'exercice-là, justement. Je me rappelle de Giro où il perdait 6 minutes quand il passait aux Pays-Bas au début ou des trucs comme ça. Et Gaudu, voilà, il est en avance là-dessus.
Tout à fait, ou en descente, hein, où il n'était pas à l'aise non
exactement.
Plus.
Exactement.
Hein. Donc là, on a retrouvé effectivement un Gaudu qui, globalement, bon, voilà, on peut dire, vous a plutôt satisfait. Oui, Charles.
Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que Gaudu, c'est d'autant plus intéressant parce que enfin, l'an passé, ça a été compliqué et plusieurs observateurs se demandaient s'il arriverait vraiment à passer ce cap. Et au final, je trouve que c'est une bonne chose pardon, de le voir progresser. Déjà sur la Provence, on se demandait un peu s'il n'y avait pas une erreur de casting de la FDJ, car on voyait qu'il était vraiment en forme, peut-être le plus fort de la course avec Dunbar. Et là, le voir confirmé, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne sais plus c'est quoi sa prochaine course, c'est le Tour de Catalogne là ? Non, ou ça devrait vraiment lui convenir pas mal, non ?
Pour David Gaudu ?
Ouais, pour David Gaudu.
Attends, je regarde.
Désolé, je sais qu'il doit faire ni le Paris-Nice, ni le Tirreno.
Alors, il n'est pas annoncé sur la Catalogne. Je vois qu'il est sur le Tour du Pays Basque, mais peut-être qu'il fera d'autres courses avant. Sinon, ça fait un mois sans course. Donc, je ne sais pas. Peut-être sur... Je ne sais rien, en fait.
Non, il ne doit pas faire, en tout cas, ni Tirreno, ni Paris-Nice. Ça, j'en suis certain.
C'est ce qu'il avait dit en interview, je crois. Il me semble qu'il sera sur la Catalogne, mais pas sûr. Enfin, bref, ce n'est pas très important.
Et pour en revenir au vainqueur, parce que finalement, son avance chronométrique ne traduit peut-être pas sa domination réelle sur la course. Roglic a été quand même assez solide. Il a même battu dans des sprints en côte des gens comme Valverde. Ce n'est pas forcément là où on l'attendait. Enfin, il a été très solide. Et ça a été aussi d'ailleurs noté sur le fil actuel de notre live YouTube. Cette fois-ci, il a été entouré par son équipe. Alors que c'est vrai, l'année dernière, on le voyait plutôt seul.
Notamment Lorenz de Plus qui a vraiment été très, très important sur les ascensions. C'est lui qui roulait en tête du peloton et à un certain rythme qui permettait d'éviter les attaques. Au début des cols, on voyait notamment Tony Martin, mais surtout Lorenz de Plus qui était très fort. Et quant à Roglic, il était presque peut-être une jambe au-dessus des autres. C'est surtout sur la dernière arrivée au sommet où c'est impressionnant parce que lorsque le sprint est lancé, il se fait bloquer, enfin il se fait gêner, on va pas dire bloquer, une ou deux fois, il doit changer de ligne, repartir, et il gagne quand même facilement. Sur l'étape gagnée par Caleb Ewan, il est largement au-dessus des autres coureurs pour le général. Non, vraiment très très fort. On voit qu'au-delà de son talent pour le contre-la-montre et pour de grimpeur, il a vraiment une force de puncher impressionnante.
Oui, Charles ?
Ouais, ta question initiale, Max, c'était justement de savoir si on pourrait tirer des enseignements. Mais ouais, enfin, Roglic a pu la classe, quoi. Enfin, vu le parcours du Giro, enfin, j'ai du mal à me demander, enfin, à savoir qui va pouvoir le déloger en mai, à part un grand Bernal. Enfin, franchement, je ne vois pas trop ce qui pourrait lui arriver. Quand même.
On l'avait fait en émission en début de saison.
Après, Roglic, l'an dernier, déjà, il était en avance.
Oui. Mais on avait fait une émission en début de saison pour sur la Lotto Jumbo, en évoquant ses peut-être nouvelles ambitions. Et bon, on sait que l'équipe s'est renforcée. Là, elle est capable d'entourer, je pense, deux leaders sur deux courses différentes au même moment, sans trop de problèmes. Là, Roglic, je pense, effectivement, vu le parcours du Giro, qui est assez favorable pour lui étant donné le kilométrage contre la montre, cela se pose vraiment en prétendant, il montre en tout cas ses ambitions, il ne se cache pas. Il avait déjà annoncé en début de saison néanmoins vouloir briller non seulement sur les grands tours mais sur toutes les petites courses d'une semaine auxquelles il voulait participer.
Ouais, puis Roglic c'est le 4x4 parfait pour moi parce qu'il est très bon en montagne, il est très bon en contre-la-montre et il va vite au sprint, donc du coup il est capable d'aller en plus gratter des bonifs sur des arrivées, enfin c'est un peu le coureur parfait, je trouve. Enfin, ça reste une opinion perso, mais je suis assez impressionné par.
Après, sur les courses d'une semaine, moi, je trouve pas qu'on a appris particulièrement quelque chose cette semaine, vu que l'an dernier, il était déjà au-dessus du lot les six premiers mois de l'année sur les courses d'une semaine. C'était lui et Bernal qui régnaient à chaque fois qu'ils étaient sur des courses. course comme ça. Donc, je suis pas sûr que la semaine en question, surtout qu'en plus là, vous l'avez dit, le parcours s'y prêtait pas spécialement. Il a pris le maillot après le chrono par équipe et après ils ont géré quoi. C'est l'UAE Tour. Bon, c'est pas, on n'est pas encore en train d'essayer de faire des grandes manœuvres pour renverser des courses quoi. On n'est pas là dans la saison. Donc, j'ai envie de dire que pour lui, pour le situer lui par rapport à ses adversaires, je suis pas sûr qu'on en sache plus à la fin de la semaine qu'au début.
Et j'avais envie de dire, est-ce que c'est la même chose pour les sprinteurs ? Parce que c'est vrai que cette semaine, au niveau des sprinteurs, on avait un beau plateau sur cette course. Et finalement, on a eu à chaque fois, je crois, des vainqueurs différents. Donc, difficile de tirer aussi des enseignements, une hiérarchie précise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour peut-être clore le chapitre sur cette course et passer aux suivantes.
C'est compliqué.
Oui. Vas-y.
Je disais juste, c'est compliqué pour définir une hiérarchie dans les sprinteurs, parce que contrairement aux grimpeurs, aux coureurs pour le général, où les montées se ressemblent, malheureusement peut-être d'ailleurs un peu trop, chaque sprint est différent entre les chutes, les problèmes, etc. Le fait qu'il n'y ait pas tout le plateau des sprinteurs également réuni. Pour ma part, en fait, la seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a des coureurs... Pour les vainqueurs, pour les meilleurs, ça ne donne pas vraiment d'enseignement. Par contre, pour un Mark Cavendish, dont la meilleure place en sprint cette semaine est 13e, je le disais déjà la dernière, mais ça sent vraiment le sapin, quoi, hein. J'ai l'impression qu'il a perdu cette faculté à débrancher les cerveaux pour sprinter. Et c'est radical pour un sprinter. Et contrairement à certains coureurs qui ont changé un peu de registre, malheureusement, Mark Cavendish est un peu trop coincé dans le registre du pur sprinter.
Charles, je pense que tu risques d'abonder dans le sens de Benjamin là-dessus.
Sur Cavendish. Enfin, moi, je trouve ça toujours un peu dommage parce que Cavendish, c'est un grand champion, et le voir un peu traîner sa misère comme ça depuis plusieurs mois, plusieurs années, enfin, ça fait pas trop plaisir, quoi. T'as quand même envie de le voir un peu performer et pas faire des fonds de top 10 et constater que c'est un peu compliqué. Mais pour en revenir à la hiérarchie, je crois que c'est toi, Baptiste, qui disais ça pendant une de nos émissions d'intersaison, qu'il n'y aurait pas de hiérarchie claire cette année. Et ouais, j'ai l'impression que ça sera le cas, qu'il n'y aura pas un sprinter qui va vraiment sortir du lot et gagner, je sais pas, 4-5 étapes du Tour de France, par exemple, quoi.
C'est vrai qu'ils ont tous un peu répondu présent. Depuis le début de la saison, on les a tous un peu vus, mais certains peut-être un peu moins d'autres, et c'est sur cela, voilà, qu'on peut peut-être commencer à tirer quelques conclusions. Baptiste, tu voulais revenir une dernière fois là-dessus avant qu'on passe à une course suivante ?
Ah. Explosion de Baptiste. Largué. Oui, on embraye. Et...
Je crois que là, il s'est fait bordurer, donc on va attendre, on va un peu lever le pied et passer à la course suivante pour attendre qu'il puisse revenir. Et bien évoquer peut-être avec vous l'avez suivi nettement mieux que moi, les reprises de nouveau en Provence en Ardèche et en Drôme pour les courses de ce week-end en France. Donc on a eu hier la victoire de Calme Jeanne, et aujourd'hui la victoire de Viermo.
Oui, tu peux le dire.
Voilà, et aujourd'hui la victoire de Viermo. Voilà, donc tes impressions là-dessus, Benjamin, pour commencer ?
Ben écoute, tout d'abord, je voudrais signaler que pour ces épreuves, je trouve super que des coureurs comme Thibaut Pinot, Romain Bardet, Lilian Calmejane, Warren Barguil participent, parce que pour le public et donc pour les sponsors, ça attire du monde. On a quand même des coureurs français qui sont au niveau mondial, qui viennent sur ces courses. Je trouve ça super. Pour parler des courses en elles-mêmes, peut-être qu'on attendait qu'elles fassent un peu plus de sélection entre les premiers, mais autant l'Ardèche, c'est vrai que c'était un peu long à suivre, et ça s'était bloqué vraiment à la relance, comme on dit. Par contre, j'ai trouvé aujourd'hui, je crois que Charles, tu es d'accord avec moi, que la course, même si elle s'est décantée dans les tout derniers hectomètres, donc la Royal Bernard Drôme Classique, était vraiment très intéressante à suivre les 30 derniers kilomètres, avec notamment à un moment une échappée royale de Bardet, de Barguil et de Calmejane. C'était agréable à suivre.
Ouais, je crois que d'ailleurs Baptiste n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on a coupé son micro, parce qu'on ne veut pas d'opposition, on décide de museler ceux qui sont en désaccord avec nous.
Dictature.
Mince, il est revenu, on est foutu.
Le revoilà.
Tout va je lui laisse la parole du coup à Baptiste, je répondirai après.
Oui, tu n'avais peut-être pas forcément d'ailleurs le même avis sur le ressenti de course, enfin peut-être surtout celle d'aujourd'hui, je crois, Baptiste. Allô? Et on l'a reperdu.
Ouf, ça remarche. Donc, je vais pouvoir dire du bien, du coup, de la Drôme classique et de la classique de l'Ardèche. Ouais, aujourd'hui, j'ai bien aimé. Enfin, on avait le choix entre Kurne et la Drôme, justement. Et perso, je crois que tu as fait le même choix, Benjamin. J'ai décidé de rester sur la course française parce que c'était assez ouais. plaisant. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Ça partait un peu dans tous les sens. Et une course plutôt sympa à regarder, même si je rejoindrai un peu Baptiste quand il dit que maintenant, les coureurs connaissent le parcours et qu'on a forcément un peu plus de monde dans le final. Là, je suis d'accord avec ce constat-là, mais j'ai quand même apprécié la course. Et je vais dire du bien d'Arkéa, d'ailleurs. Pour une fois, c'est assez rare. Mais ça m'a plu de voir que Elie Gebert et Warren Barguil revenaient dans le jeu. Je trouve ça sympa parce que Warren Barguil reste quand même un de nos grands champions français. Donc, c'est pas forcément plaisant de le voir en difficulté régulièrement. Donc, c'est cool. Une belle troisième place. Gebert avait l'air pas trop mal. Donc,
Arkéa a marqué quelques points aujourd'hui.
Ouais, une bonne journée pour Arkéa parce que on y reviendra tout à l'heure. Mais Greipel fait top 10 à Kurne, donc voilà. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été à pareille fête, et même si c'est pas exceptionnel, faut le reconnaître. C'est assez intéressant pour être souligné, je pense. Une belle journée comme ça.
Ils ont une victoire.
Ouais, Greipel a gagné lors de la Tropicale Missabou.
Oui.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt satisfait chez Arkéa et ça doit leur faire du bien.
Mais clairement. En fait, Warren Barguil, c'est un nom. C'est un nom qui parlera aux amateurs de cyclisme avec ce qu'il a fait sur la Vuelta, mais surtout sur le Tour de France en 2017. Et forcément, dès qu'il commence à bien marcher et que c'est télévisé, là, ça apparaît comme le nez au milieu de la figure. Arkéa a des noms que n'a pas Vital Concept, puisque je parle pour le Tour de France. Certes, il y a Cocard, certes, il y a Roland. Et malheureusement pour eux, Roland est blessé. Mais Warren Barguil, comme a dit Charles,
c'est mieux que ça, Warren Barguil, en fait, je trouve. Parce que tu dis que c'est un nom qui parle aux amateurs de cyclisme. Oui, mais il parle même
au grand public.
Voilà, c'est ça, parce qu'il s'est montré sur le Tour de France. C'est ça qui est très important pour eux.
Ouais. Mais tu vois, d'ailleurs, justement, quand on parle, ça fait plaisir de revoir Warren Barguil marcher. Eh bien, ouais, merde, c'est un coureur qui a marqué. Et tac, direct, tu regardes ses résultats. Et malheureusement pour eux, Vital Concept, il y a eu cette chute et ils n'ont pas eu les résultats pour ce week-end, je parle, pour contrebalancer. Et en plus, c'est accentué hier sur l'Ardèche, où on pensait qu'Antin Paché allait gagner puisque direct vélo. Et on les remercie énormément pour les lives qu'ils nous apportent sur toutes les courses non télévisées. Annoncé qu'il était en tête avec 22 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée. Malheureusement, il ne restait qu'un tour. Il a fait un numéro, mais ça, il y a eu un retombé. Et également sur les réseaux sociaux, on a vu le community manager qui, comme nous, pensait qu'il allait gagner. Et ça a encore mis encore plus en exergue, je ne vais pas dire les difficultés, mais le fait que par rapport à Arkéa, quand les leaders marchent bien, il y a une petite différence quand même.
Ouais, là je rejoins Benjamin là-dessus. Enfin, il y a quand même une différence entre les gros leaders. Enfin, Arthur Vichot, par exemple, c'est un très très bon coureur, je trouve, mais c'est pas un coureur de Tour de France. Il faut qu'il bénéficie quand même de certaines circonstances pour pouvoir gagner, parce que c'est pas le meilleur grimpeur et c'est pas le meilleur sprinter ni le meilleur rouleur. Il est très bon, très complet, mais malheureusement. Il ne peut pas rivaliser avec un Warren Barguil qui, quand il est à 100%, enfin, on l'a vu sur le Tour de France, il est exceptionnel. André Greipel, il est un peu vieillissant, mais il est capable de gagner une étape du Tour au sprint, ce que n'est malheureusement pas capable de faire Brian Cocard. Donc, comme tu l'as dit, Benjamin, le constat, il est là. C'est que si tout le monde est à 100%,
aujourd'hui.
Il y a une différence de niveau entre les leaders.
Par contre, Quentin Paché, je vois que ce bike CHM, je ne sais pas comment on prononce, qui le dit sur notre live, Quentin Paché, c'est un coureur qui monte, qui est en retrait médiatiquement, mais c'est très fort ce qu'il fait. Encore aujourd'hui, on l'a vu se mêler à la bagarre avec les grands. C'est vraiment très bon. C'est le fait qu'il y ait une sélection qui doit s'opérer pour le Tour de France, parce que sinon, ils ne sont pas ridicules non plus.
Justement, je voulais vous poser la question. Je crois que Baptiste est revenu, donc on va faire. Je vais lui poser la question. Tu es là ? Tu es revenu ?
Je pense.
Oui. Effectivement. Cyril Guimard a évoqué durant le live de l'équipe sur la course. Aujourd'hui, il revenait sur la course d'hier en évoquant justement cette attaque de Paché et en expliquant que, en le mettant un peu ça sur le compte de la nervosité et avec les wildcards en ligne de mire. En gros, peut-être que Quentin Pagé n'aurait pas fait cette tentative à 20 km s'il n'avait pas un peu cette pression, la pression des wildcards du Tour de France dans la tête et le fait de devoir se mettre en avant et de devoir tenter le tout pour le tout. Alors que d'autres coureurs qui sont dans des équipes plus sûres ou qui ont fait un meilleur début sont plus tranquilles et donc peuvent se permettre de la jouer plus attentiste. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'analyse ?
Je pense que c'est un peu un faux débat, parce que de toute façon, Vital Concept n'avait pas sa place acquise sur le Tour de France au début de la saison, et donc à un moment ou à un autre, soit ils sont pris dès le début, mais ça aurait été plutôt une surprise, soit ils n'étaient pas pris dès le début, et dans ce cas-là, on aurait dit quoi ? Ah bah c'est dégueulasse, ils n'ont pas eu le temps de faire leur preuve. Enfin, en fait, il y a toujours une raison de penser que le choix ne se fait pas au bon moment, et que ça met la pression sur les coureurs, ou qu'à l'inverse, ça les décharge de toute envie de résultat. C'est pas la première fois qu'il y a des équipes comme ça qui se retrouvent en bisbille en début de saison pour obtenir une place sur le Tour de France. On en fait tout un foin parce qu'il y a des arguments dans les deux équipes, qu'il y a aussi toute une communication dans les deux équipes concernées pour prouver qu'on a plus la place que l'autre, etc. Machin. Et ça vire un peu au psychodrame, mais aussi parce que les principaux intéressés font en sorte que ça tourne au psychodrame quelque part, parce que ASO décide après plusieurs mois de compétition qui vient sur le Tour de France, c'est un peu tous les ans en fait quoi. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a c'est un peu tempête dans un verre d'eau tout ça aussi. Les coureurs, ils sont suffisamment mûrs, ils savent très bien comment on fait pour courir et obtenir des résultats. C'est eux les professionnels. Le reste m'a l'air d'être surtout quand même beaucoup d'esbroufs autour de tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui s'inventent un peu des problèmes. Les équipes devraient être plus sereines et essayer juste de faire leurs résultats. Et je comprends qu'évidemment l'avenir de ces deux équipes puisse être éventuellement en danger en cas de non-participation au Tour de France, mais c'est des équipes qui sont en deuxième division mondiale, elles n'ont pas l'assurance de participer au Tour de France, c'est comme ça, c'est dans leur statut quoi. Donc c'est dur, mais c'est comme ça.
Charles, oui, parce que en même temps, j'avais envie de dire avant de te lancer, de toute façon, sur le moment, je suis pas sûr qu'en plein effort, Pagès pense directement à cela. Peut-être c'est le directeur sportif, mais lui, sur l'effort, à mon avis, il doit avoir la tête ailleurs. Charles.
Ouais, je rejoins ce qu'a dit Baptiste, c'est un peu tempête dans un verre d'eau. Enfin, je veux dire, faut être clair par rapport à ce qu'on raconte. On est sur du sport de haut niveau. Le but du sport du haut niveau, c'est de gagner. Et forcément, il y a des gagnants et des perdants. Enfin, quand j'entends des trucs sur des pétitions, faut une 23e équipe, faut limite une 24e équipe, enfin, ça me fait un peu rigoler, quoi. C'est logique qu'il y ait une sélection qui soit faite naturellement par rapport à des résultats, parce que c'est le but de toute équipe ou de tout groupe professionnel. Enfin, c'est comme si à un moment, le 4e du championnat de France de Ligue 1 disait « Ah ouais, mais non, c'est pas normal, moi aussi je vais aller en Ligue des Champions, j'ai le niveau, prenez une équipe en plus. » Ben non, quoi. Il y a une sélection qui est faite par rapport à des courses où chacun part avec les mêmes chances, puisqu'il y a le même nombre de coureurs au départ, donc que le meilleur gagne, et puis c'est tout, quoi. Enfin, pour moi, ça paraît très très simple, en fait.
De toute façon, je pense qu'on en saura bien plus d'ici quelques semaines, et les choses seront naturellement à la pédale.
Juste pour réagir à Charles.
Oui, vas-y.
Pour ma part, justement, c'est vrai que cette année, mais bon, amoureux du cyclisme français, c'est vrai que je trouve ça dommage que toutes les équipes et malheureusement, en disant ça, je mets Delco Marseille qui fait un beau début de saison à leur niveau. C'est dommage que ces trois équipes, donc Direct Energy, on n'en parle pas Direct Energy tellement ils semblent au-dessus des deux autres, Terpstra qui fait une super place, et surtout Calmejean qui fait une très grosse victoire hier, on n'en a pas parlé, mais le moment où il sort, certains pourraient se dire il sort, on le laisse sortir. Non, on ne le laisse pas sortir, hein. C'était juste que c'était le plus fort et de loin. Donc entre Arkea et Vital Concept, c'est dommage parce que en effet, il y a la survie à court voire moyen terme de l'équipe non prise en jeu. Et je me dis qu'on a un vivier de coureurs en France qui pourrait bénéficier de toutes ces équipes sur le Tour de France. Et j'espère que ça ne soit pas le début une équipe qui disparaît. En fait, j'ai toujours peur, et Max, ça va te faire sourire, que ça devienne comme le cyclisme italien, où au bout d'un moment, tac, il y a une équipe qui disparaît, puis une autre. Le Tour de France est malheureusement vital, et avec les sélections qu'il va y avoir pour les grandes épreuves à partir de l'an prochain, je comprends que ces équipes aient vraiment peur de ne pas être sur ce Tour de France, parce qu'après, peut-être la chance sera passée.
Charles?
Ouais, juste pour finir rapidement, enfin, une question, Mag, je sais que tu avais cette réflexion-là, ouais, je vais essayer, je sais que tu avais cette réflexion-là par rapport aux équipes italiennes de deuxième division, mais mon questionnement, ce sera peut-être l'objet d'une future émission, c'est est-ce qu'à la base des projets, il n'y a pas une erreur en fait de miser la réussite ou la survie financière sur une participation au Tour de France?
Je crois
pas
que c'est
comme Delco, tu vois, qui vit sa vie tranquillement et qui, de Tour ou pas Tour de France, continue à
Ouais,
exister
mais
et pas de...
avec la conjonction économique, je crois que c'est également le OK, on vous paie, mais on veut que sur les 2-3 ans, on aille sur le Tour de France.
Ce que Baptiste l'a dit, si tu es World Tour, tu vas forcément sur les grands tours, mais quand tu es en deuxième division,
Ouais,
tu dois
ouais.
forcément prendre en compte que y a des chances que tu fasses
Oh,
pas toutes
d'accord.
les grandes courses, que c'est soumis à invitation. Donc,
Faut que le vivier
avoir.
soit suffisant, je dirais de manière générale aussi, si le vivier n'est pas suffisant pour permettre à autant d'équipes de pouvoir scorer et qu'il y en a une, par exemple, qui est clairement en dessous des autres, ben, c'est normal de ne pas la retrouver. Et d'une certaine façon, alors pour le cyclisme italien, c'est un phénomène qui s'est auto-entretenu de cette manière-là. Hein. Moins d'argent, de moins en moins de bons coureurs. Et du coup, ben, y a une équipe qui a plus haut niveau, et deux, et trois, et ainsi de suite. Voilà. Là, les équipes françaises ont créé beaucoup de conti pour en peu de temps. Donc, voir si effectivement, c'est pas. Il y a peut-être une de trop. Nous verrons bien. Voilà, alors. Pour conclure sur ce sujet. Maintenant, on va aborder rapidement les Flandriennes. On a eu le début du gros week-end flandrien là, cette semaine. Donc, avec la Omloop et le Kuurn, Bruxelles-Kuurn aujourd'hui. J'avais envie de dire, les Flandriennes, c'est un peu comme d'habitude. Donc, c'est des coureurs avec un vélo et à la fin, c'est les Quickstep qui gagnent. C'est ça, Charles? J'ai bien compris le concept?
Ouais, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup regardé les Flandriennes ce week-end parce que je me suis concentré sur la Drôme aujourd'hui. Mais
quel
ouais,
zozo.
Quel zozo, ouais. Mais ouais, enfin, j'ai regardé
ouais,
juste la fin.
Hier.
Ouais, du coup, je vais laisser la parole à Baptiste qui... Maîtrise plus ce sujet, il a plus regardé.
Ouais, même aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est Kuurn, c'est un peu spécial, même si on a vu un très joli numéro de Bob Jungels, c'est derrière une poursuite vaine qui a fait que le sprint a été totalement décousu derrière lui parce que tout le monde s'était épuisé. Mais au passage, effectivement, comme Benjamin le disait tout à l'heure, il y a Terpstra qui a fait troisième, qui fait son premier très bon résultat avec Direct Energy. Non, et hier sur le news... Comment ?
Non, je reviendrai quand même sur la course d'aujourd'hui où j'ai envie de décerner un prix spécial.
D'accord. À Mitchelton. Ouais. Non, et hier au Newsblad, mais il faut toujours se méfier aussi. Mais c'est vrai qu'on a vu une victoire de Stibar, donc avec une victoire des hommes de Lefebvre qui n'avaient pas gagné là-bas depuis 14 ans, je crois. Et on a vu surtout quelques équipes un peu passées à travers. Il y a notamment les Sky, les Sunweb, les Trek, UAE. On a vu aussi Vandermark mettre la flèche alors qu'il avait été assez en forme les semaines précédentes. Dimension Data avec le vainqueur sortant Valgren qu'on n'a pas du tout vu non plus. Mmh. Donc voilà, il y a quelques équipes qui sont passées au travers. Maintenant, il faut se méfier toujours avec le Newsblad aussi. D'abord, même si c'est une Flandrienne, il y a quand même relativement peu de monts pavés sur le Newsblad. Il ne faut pas oublier que le Tour des Flandres, c'est dans 6 semaines. Paris-Roubaix, c'est dans 5 semaines. Paris-Roubaix, dans 6 semaines. Donc, c'est dans très longtemps. Et que voilà, les formes d'aujourd'hui, ce ne sera pas du tout les formes sur les monuments pavés. Donc, faut un peu se méfier des enseignements. D'autant plus que la course s'est décantée avec un groupe de 5 qui est parti et qui s'est joué la gagne. Mais alors même s'ils étaient très costauds et qu'ils ont su faire fructifier leur avantage pour aller jouer la victoire, ils sont quand même sortis d'un plus gros groupe qui s'est disloqué suite à une chute, celle de Tige Benoît dans un virage. Et voilà, la sélection s'est faite sur cette chute et ça ne veut pas dire que les mecs devant n'étaient pas forts, c'est pas la question. Mais en gros, selon si vous étiez devant ou derrière Benoît dans ce virage, vous étiez dans la bonne ou pas, quoi. Donc par exemple, il y a des coureurs comme Wout van Aert qui se sont retrouvés piégés là-dedans alors qu'ils étaient dans le bon groupe. Et je le cite lui parce que je pense à lui, mais il y en avait d'autres. Voilà, oui. Donc ce n'est que la première, il en reste beaucoup. Il y a les Strade Bianche le week-end prochain, il y a toutes les autres, le 3, Gent-Wevelgem à travers la Flandre, voilà. Donc le Samin des mardis, donc voilà, il y a largement le temps pour plein d'autres coureurs et plein d'autres équipes qui n'ont pas forcément été à la fête ce week-end pour rattraper le chemin.
On voit néanmoins que l'équipe belge n'a rien perdu de sa science de la gagne, on va dire. Hein.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, il y avait quand même quelques images impressionnantes. C'est lorsqu'on voyait donc Jungels lancer vers la victoire, vers à 10 km du but. Et derrière le groupe à sa poursuite avec un Bora et cinq coéquipiers de Jungels, cinq Quick-Step qui étaient juste derrière le pauvre Bora qui roulait. Là, bon, c'est à ce moment-là, on pouvait déjà se dire et comprendre que le Luxembourgeois avait course gagnée.
Mais oui, sinon, pour revenir au Het Nieuwsblad, un qui m'a impressionné, c'est Alexei Lutsenko, qui a écrasé le Tour d'Oman il y a deux semaines, et qui est très très fort également. Bon, alors bien sûr, on pourrait parler, attention, t'as vu dans quelle équipe il est, patati patata, mais surtout peut-être que le malheur terrible qui a frappé sa famille cet hiver, il y a fait passer également un cap mental et une rage, voire une vraie haine sur le vélo pour se dépasser. Donc chapeau à ce coureur. Hormis ça, malheureusement, les Français perpètent les oies. 31e Christophe Laporte sur le Nieuwsblad. Bon, il manquait Arnaud Démare qui est encore convalescent, mais c'est quand même pas fameux. Allez, peut-être on peut dire que les Direct Energy avaient l'excuse de se dépouiller pour leur leader, mais quand même, hein, c'est...
On a quand même un Sénéchal dans le top 10 de la course d'aujourd'hui. Voilà. Mais bon, on sait que c'est effectivement pas le point fort de la plupart de nos compatriotes. Charles, tu voulais intervenir ?
Ouais, je voulais juste dire que moi, j'ai été vachement déçu par Trek du peu que j'ai vu. On l'avait déjà pointé sur les quelques courses françaises.
C'est vrai que Richie Porte sur l'UAE n'a pas été terrible.
Richie Porte, je vais arrêter d'être fan de Richie Porte parce que c'est plus possible. Psychologiquement, c'est trop compliqué. Mais bref, blague à part, ouais, je les trouve vachement en retrait en ce début de saison. Ça n'annonce rien de bon pour moi, même si Baptiste l'a dit, il y a encore du temps avant les grosses échéances du printemps. Mais je trouve ça assez décevant quand même. Et juste pour
Molina
finir là-dessus.
Molina a fait un début de saison correct, mais c'est un peu le seul, c'est vrai qu'on a vu.
Ouais, c'est assez curieux. Enfin, ils n'ont pas forcément habitué à ça, mais je vais juste revenir rapidement sur Lutsenko également, qui, comme vous l'avez dit, est assez surprenant dans le bon sens. Enfin, je trouve que c'est un coureur, il franchit pas 15 paliers à la fois, mais depuis 5-6 ans, enfin, petit à petit, on a l'impression qu'il gravit les marches une par une et qu'il arrive à un niveau vraiment, vraiment intéressant. Enfin, je suis assez bluffé par ce coureur dans le bon sens du terme.
On a vu globalement une équipe Astana, même si voilà, un peu en retrait par rapport aux performances qu'elle pouvait faire sur d'autres types de terrain, mais on a vu quand même une équipe Astana assez entreprenante, hein, sur ses courses, encore une fois. Bon, je ne serais pas étonné que voilà, les revoir de nouveau à l'avant et signer quelques belles placettes pour les prochaines courses. Finalement, on voit même des coureurs qui montent en puissance comme Kort Nielsen, qui était un peu, je crois, blessé ou malade en début de saison. Ballerini, finalement, qui se révèle assez à l'aise sur ce type de terrain qu'il découvre. Après, donc oui, pour celles qui ont encore du travail, eh bien, notamment, il y a Dimension Data, vous aviez dit déjà sur la course d'hier, c'était pas terrible. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aucun Dimension Data n'a terminé la course. Aucun.
Non, mais la question, c'est pourquoi Valgren, il est allé chez Dimension Data. Enfin, à un moment.
Donc, c'est. Voilà. Eux, ils ont quand même des choses à revoir d'ici un mois. Il y aura des choses à corriger. Alors, oui, il reste un mois, mais ce n'est pas des signes très, très rassurants. Et au niveau de la Mitchelton, je pense qu'il doit y avoir un petit problème au niveau, peut-être, dans la direction. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'était un peu n'importe quoi. On les a vus d'abord, dans un premier temps, rouler dans un groupe contre un autre groupe où ils étaient aussi en train de rouler. Et pourtant, dans ce premier peloton, ils avaient Trentin et Durbridge. Et il y avait un groupe derrière avec d'autres Mitchelton qui leur roulaient dessus. Plus tard, on a vu encore, à ce moment-là, Trentin victime d'une crevaison. Et Durbridge roulait comme un bourrin avec le reste de son équipe pendant quelques kilomètres. Donc, Trentin, n'arrivant pas à rejoindre le peloton, a fini par prendre un raccourci et provoquer sa disqualification. Enfin bref, c'était un festival de mauvaises décisions aussi cet après-midi à ce niveau-là. Donc beaucoup d'équipes encore ont des choses à revoir, en dehors même des performances absolues.
Visiblement, il fait moins bon enfreindre les règles en Belgique qu'au Rwanda. Je dis ça, je dis rien. Mais...
Alors oui, Trentin n'a pas été le seul d'ailleurs à avoir pris ce raccourci. Je ne sais pas si les autres ont été aussi exclus parce qu'on a vu des images.
Il y a eu Polite, je crois.
Il s'est fait virer aussi.
Il n'y a que lui, parce qu'après Trentin, il y en a encore eu d'autres sur le dernier tour de Circuit.
Après, peut-être,
on le voit clairement. Donc, Là aussi, il y a peut-être des sanctions qui vont tomber plus tard, je ne sais pas. Oui, on reviendra sur le Tour de Rwanda. Notre émission spéciale, effectivement, Koudous a pris un petit raccourci. Voilà, écoutez, on a un peu débordé. Il faut dire qu'on a commencé aussi l'émission un peu plus tard. Je vous propose là de clore le sujet sur la semaine écoulée. Pour la semaine prochaine, l'actualité sera un peu plus légère parce que en fait, on aura principalement le Samin et le week-end l'Estrade Bianche et le début de Paris-Nice. Donc, on fera un sujet largement consacré à cette course pour la semaine prochaine. Voilà, on va quand même se livrer peut-être à un petit jeu pronostique pour le vainqueur d'Estrade qui aura lieu samedi. Voilà, alors je commencerai par Benjamin.
Mais je vais pas. Alexei Lutsenko.
Je voulais le dire.
J'ai hésité avec Alaphilippe, mais je me suis allé en charge. Pour une fois, on prend quelqu'un qui a rien
Je... je m'attendais à ce que tu dises à Alaphilippe, vois-tu.
Ouais. Je vous le laisse.
D'accord. Est-ce que tu le prends, Benjamin Pardon, Baptiste, du coup.
Je voulais dire Lutsenko, mais c'est vrai qu'Alaphilippe a un profil. Il n'a jamais couru Estrade Bianche. Mais si, comme c'est quand même arrivé plusieurs fois ces dernières années, la victoire se joue entre un petit groupe dans la Via Santa Caterina. C'est vraiment une rue qui est faite pour Alaphilippe.
Oh, et puis il vient du cyclocross, donc il sera normalement pas mal à l'aise sur les, sur les chemins.
Le chemin blanc, ouais.
On risque de le voir effectivement à son avantage. Enfin, Charles ?
Ouais, c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément encore beaucoup d'infos sur la. J'étais en train de regarder là sur PCS la liste des engagés. On n'a pas trop d'infos donc. Allez, je dirais Wout van Aert pour une revanche par rapport à l'an dernier, mais sans grande conviction, parce qu'encore une fois, on n'a pas énormément d'infos.
D'accord. Très bien. Alors moi, je ne vais pas trop mouiller non plus. A priori, je pense que Benoît est prévu sur la course et qu'il aurait très envie de bisser. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que là, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire. On a légèrement débordé, mais... que très légèrement, finalement. N'est-ce pas, Baptiste ? J'espère que l'émission vous a
plu. Plus c'est long, plus c'est bon.
Exactement. N'hésitez pas à laisser commentaire, pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt, à la fois donc, pour l'émission Globetrotter. Je pense que c'est dans la semaine qu'elle est prévue, Charles ?
La semaine suivante, normalement.
La semaine suivante, très bien.
Par contre, excuse-moi Max, c'est moi qui te coupe, c'est pas Charles cette fois-ci. Il est possible que, tout dans le courant de la semaine, mais ça sera annoncé si c'est le cas, il y ait une émission spéciale sur le début de saison des Français. Donc voilà, restez connectés, comme on dit.
D'accord, on vous tiendra au courant de toute façon. Voilà, et bien prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.